Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou et Fanny Cohen-Moreau, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Clément Vuillet. Porter son regard cette semaine sur un récit autobiographique de Jacques-Alain Léger, pseudonyme de l'écrivain et chanteur Daniel Théron, dont je vous ai déjà recommandé l'album Obsolète, signé d'un autre pseudonyme, Dachiel et Dayat. Le récit, publié en 82, s'intitule Autoportrait au loup et met à nu un écorché vif, essayant tant bien que mal de transformer sa haine de soi en œuvre. Le ton est souvent la jérémiade, mais entre deux cris dont la douleur allège la solitude des tristes, on trouve des constellations verbales faisant au cerveau un bien plus bel effet que les substances prises par l'auteur pour anesthésier, je le cite, son encombrant moi obèse. L'invité de ce jour est un réalisateur, écrivain, scénariste, dramaturge et metteur en scène dont le film Guermantes est en salle depuis fin septembre et dont le spectacle Le ciel de Nantes jouera bientôt au Théâtre des Célestins à Lyon, puis à Nantes, précision à retrouver en fin d'émission.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes content d'avoir été mis au monde ?
Ouh là là !
Bah ouais.
Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si le mot content est le mot que je... Enfin, qui me viendrait en premier à l'esprit. Je suis parfois surpris d'avoir été mis au monde et je m'efforce d'être, je sais pas, d'être à la hauteur des fois de cette surprise, disons. Mais le contentement, non, pas tant que ça. Je me réveille rarement le matin en disant « Ah, que la vie est belle, que je suis heureux d'être en vie ». Ça, c'est pas tellement mon état d'esprit, non.
Oh, que c'est agaçant, j'étais si bien pourtant. Oui, papa, oui, oui, maman, au diable les parents.
Réveille-toi d'Alice Donna pour introduire justement votre état d'esprit, Christophe Honoré, le matin. Je vous ai demandé ce qui vous donnait envie de vous lever et vous avez eu cette réponse. Jusqu'à il y a 20 ans, c'était la promesse et la surprise du courrier. Aujourd'hui, rien ne me donne envie, juste tout m'oblige à me lever. La promesse et la surprise du courrier. Quelle promesse, quelle surprise ?
C'était quelque chose, on sent très très vieux quand on dit ça, mais enfin en tout cas moi je me souviens quand j'étais étudiant, même quand je suis arrivé à Paris, jusqu'au, je dirais le milieu des années 90, on s'écrivait tous beaucoup, enfin en tout cas moi j'écrivais beaucoup, il y avait les correspondances amoureuses, les correspondances amicales, il y avait l'attente des abonnements, des revues qu'on aimait bien, etc. Et donc j'étais toujours très très excité à l'idée d'aller ouvrir la boîte aux lettres et c'est souvent ce qui me sortait de mon lit.
Alors, j'ai lu dans une interview que vous disiez quand même que la naissance de votre fille vous avait donné une énergie de travail et un désir d'être dans la vie. C'est suffisamment rare pour être soulevé.
Oui, en tout cas, moi, je l'ai noté et je le partage d'ailleurs avec sa maman. C'est que ça m'a pas, en tout cas, je me suis pas isolé à la suite de ça. Et au contraire, je me souviens, genre 3 mois après sa naissance, je tournais un film qui s'appelait Dans Paris. Et puis, j'ai vraiment beaucoup enchaîné les tournages à ce moment-là. Et je publiais encore des livres à l'époque. Et c'est vrai que c'est, pour moi, c'est plutôt un accélérateur, en fait. J'ai pas eu le petit côté, je sais pas comment dire, ni douillet, où soudain on s'isole du monde. Et puis, au contraire, en fait, c'était quelque chose qui me donnait envie d'être plus vivant.
Christophe Honoré, pour façonner une œuvre, il faut forcément un désir. C'est pas toujours facile à nourrir un désir, surtout quand on n'a pas vraiment envie de se lever. Est-ce que le contexte actuel a ajouté justement au fait que ce soit difficile ? Je pense à la crise sanitaire qui a stoppé cet hiver justement votre création du côté de Guermantes à la Comédie-Française. Vous en avez fait un film qui est toujours en salle, Guermantes. Et je sais que vous étiez dans une grande détresse juste avant le tournage. Vous pensiez que vous n'arriveriez plus à rien, ni à écrire, ni à créer.
Ouais, c'est. Je pense que les gens, il y a une espèce de lieu commun qui voudrait que les artistes, les cinéastes, les écrivains, en fait, travaillent tout seuls dans leur chambre et que donc forcément, ce confinement était presque un âge d'or. Ouais, voilà, un moment béni. Et moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est-à-dire que comme c'était un temps imposé, pour moi, c'était un temps qui était très stérile. Et j'étais vraiment dans l'incapacité absolue, en fait, de l'utiliser, ce temps où et même de me projeter, en fait. En plus, c'est venu à une période, c'est assez normal, moi j'ai fait un certain nombre de films, etc., où vous vous remettez beaucoup en cause, en fait, sur l'idée de du film suivant. Pourquoi refaire un film après tout ça? Enfin, c'est une vraie question en tant que cinéaste. Qu'est-ce qui justifie qu'à un moment, vous faites un film de plus? Et puis, bah, il y avait ces projets de théâtre qui devenaient très compliqués, et je sais pas, non, ça m'a rendu plutôt absolument, enfin en tout cas ça m'a démuni. J'étais un peu sans désir et puis il faut bien avouer que ça perdure en fait. C'est-à-dire on vit un moment, un temps de grande angoisse qui a été quand même aussi traversé par beaucoup de tragédies familiales avec la mort de certaines personnes, etc., liées à cette maladie. Plus en fait toute la précarité que ça a entraîné d'un point de vue professionnel. Et puis nous on a la chance en France en plus d'avoir ces élections présidentielles qui s'annoncent tellement... On se réjouit tous les jours d'entendre ce qu'on commence à entendre, et c'est vrai que c'est une vraie question en fait. Est-ce qu'à un moment on continue à essayer de fabriquer un tout petit peu de beauté, puisque c'est un petit peu malgré tout, en tout cas c'est l'ambition ou la vanité qu'on peut avoir en tant qu'artiste, ou est-ce qu'à un moment on se dit bon bah ça il faut le laisser de côté et puis faut agir contre le monde d'aujourd'hui ou en tout cas en essayant comme ça de préparer un monde qui soit moins hostile.
La beauté, c'est justement l'une des choses que nous cherchons dans cette émission, et dans un instant, il en sera question. Déjà, il sera question d'élitisme pour tous, de loyauté, d'Hervé Guibert, d'André Gide, d'Alain Platel, de Marcel Jouhandeau, de la comtesse de Ségur, de Salinger, de Mère, de Mort et de Léonard Cohen. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
L'embellie sur France Inter.
De trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes os, parfois je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo. Je suis passé par le banc là où l'été est tombé entre toi et moi, mon grand. Là où tu as ramassé mon gant. Il n'y a qu'un parking blanc l'été. Jour après jour, j'en fais le tour. Pourquoi j'ai peur, je paraphrase. Pourquoi je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo.
« Vertigo d'Alexia Grédy. Nous sommes avec Christophe Honoré, à qui je pose une autre question assez difficile. Aimez-vous notre époque ?
Ouais, mais d'une manière délibérée, d'une manière bête et obstinée. Je m'efforce de me dire qu'il faut forcément à la fois aimer notre époque et puis je sais pas comment dire ça et désirer d'une manière folle et insensée l'époque qui va venir. Parce qu'autrement c'est
on peut
jamais y arriver. Et moi j'aime mon époque et puis j'aime l'idée de travailler avec en me disant ah bah c'est cool. Au même moment où moi je travaille, il y a un tel qui fait des chansons, un tel qui écrit des livres, etc. Et donc je suis toujours, j'ai l'impression qu'il faut toujours en tout cas se sentir solidaire de son époque, quoi qu'il arrive.
Christophe Honoré, vous êtes autodidacte, vous passez d'une discipline à l'autre, le cinéma, le théâtre, l'opéra, la littérature, ce qui fait que ça vous fait vous sentir parfois imposteur et ça brouille la définition de ce que vous êtes, enfin pour les gens qui veulent à tout prix cataloguer. Et je vous cite, vous dites à propos de vous-même, « Cette impureté est ma réponse au désordre que je ressens autour de moi ». Vous parlez d'impureté, mais en fait, votre œuvre, elle est assez cohérente dans tous ces domaines-là, finalement, ça forme un cosmos assez cohérent.
Oui, ça finit en tout cas par être cohérent, mais c'est parce que justement, je sais que je sais pas faire. Et je trouve que partir de son incompétence, c'est pas le plus mauvais point de départ pour débuter une création, que ce soit au cinéma, en littérature ou au théâtre ou à l'opéra. Par exemple, la première fois qu'on m'a proposé de faire de l'opéra, moi je suis incapable de lire une partition, j'ai une connaissance quand même très minime en fait des grandes œuvres lyriques, et passer la première action qui dit ah c'est très gentil mais vraiment je saurais pas faire, après tout de suite se déclenche en fait à l'intérieur de ma tête l'idée bah justement parce que tu sais pas faire c'est plus intéressant. Moi je suis beaucoup plus terrifié par ma maîtrise, je suis beaucoup plus terrifié par les journées de tournage où tout roule, où en gros bah voilà je vois à peu près comment découper une scène, comment faire jouer des acteurs et comment faire en sorte que la lumière soit pas trop pourrie dans le cadre, on va dire. Ça, c'est vraiment des journées qui me dépriment. Je rentre le soir en me disant, c'est pas ça que je voulais faire de ma vie.
Ah, c'est surprenant, en fait. C'est presque le sentiment de sécurité, vous l'éprouvez dans le risque et dans le danger, Christophe Honoré.
Oui, en tout cas, c'est là, dans un entretien à Truffaut, il disait ça, et j'aime vraiment cette idée-là, et je crois que c'est pour ça que malgré tout, je suis cinéaste avant tout. Il disait quelque chose, c'est ce qui est bien quand on est cinéaste, c'est qu'on peut faire croire au spectateur qu'on fabrique de la beauté sans le faire exprès. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Parce que déjà, c'est pas uniquement un truc d'humilité, c'est beaucoup plus tordu que ça, c'est que les autres pensent en fait que vous êtes humble et que vous l'avez pas fait exprès.
Alors que vous avez sué sang et eau.
Oui, en tout cas, pour essayer de provoquer. Et c'est ça qui est très agréable au cinéma et même aussi au théâtre. C'est que c'est des expériences, c'est que vous mettez en fait en présence des éléments différents et vous avez un peu comme ça l'espoir qu'il va se passer quelque chose. Des fois il se passe rien et ben voilà, mais des fois il se passe quelque chose dont vous n'êtes pas complètement le maître. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis en plus, pour répondre un tout petit peu en fait à ce que vous disiez, par que ce soit une réponse un peu au chaos du monde, c'est vrai que ben, on appartient pour le coup à une époque où on ne peut pas faire sans le monde. En tout cas, le monde est assourdissant, il nous heurte constamment et donc en fait prétendre avoir, je sais pas, on peut pas faire des jardins à la française aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me semble être cette espèce de géométrie de la création me semble ne pas s'accorder au chaos général. Et je pense qu'au contraire, il faut essayer d'accompagner un petit peu le chaos. Enfin, il faut. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'y arrive.
Ce que vous aimeriez, Christophe Honoré, c'est que règne malgré tout dans ce chaos, la loyauté. Alors la loyauté, c'est la fidélité à tenir ses engagements. C'est drôle pour un cinéaste qui met tant d'infidélité dans ses films.
Ah, sur mes personnages, vous trouvez qu'ils sont infidèles ?
Bah oui, je suis pas la seule, je suis sûre.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont infidèles. Non, parce que je crois que c'est ce qui...
Il y a une loyauté en amitié.
Non, en amour aussi, je crois vraiment
que c'est ce
qui...
Non, mais dans vos films.
Ouais, peut-être parce que je lutte contre... Je sais pas comment dire ça sans que ce soit grandi. Moi, je crois vraiment que c'est ce qui nous tue, en fait. C'est la trahison des gens qu'on aime. Je crois vraiment que ça crée en nous, à l'intérieur de nous, une place pour la mort. Que la mort va venir occuper dans des années avec un bon petit cancer ou un bon accident de la route ou un truc comme ça. Mais elle a fait, comme on dit au cinéma, elle a fait un repérage. Et c'est vraiment au moment où vous êtes détruit parce que quelqu'un vous a trahi, que soudain, il y a quelque chose à découvert en vous, qui était un espace qui avant n'était pas découvert, n'était pas vulnérable, et que c'est pas qu'un talon d'Achille, mais c'est vraiment à partir de là en fait où vous savez que vous allez être détruit. Et je trouve que la facilité en fait qu'on a tous, parce que évidemment, soi-même aussi, on peut se retrouver en situation de, je veux dire, il n'y a pas les bons et les méchants. C'est une espèce de manifeste que je trouve que la loyauté devrait être un peu ce vers quoi on tend tous, parce que en tout cas, la déloyauté, elle fait plus que provoquer des chagrins, provoquer des dépressions, elle prépare la mort. Je crois vraiment qu'on est toujours tué par les autres. Et que cette violence-là, en fait, moi, quand je l'observe auprès d'autres gens, ou quand j'ai pu, moi, l'expérimenter, je la trouve plus que terrible, en fait. Elle est à la fois impardonnable et c'est même plus qu'impardonnable. C'est que c'est insensé qu'elle ait pu avoir lieu.
Et pourtant, elle semble inévitable.
Ben oui, mais après, je crois que c'est... Vous disiez, est-ce que vous êtes content d'être vivant ? Je sais pas, moi, si on peut être content d'être vivant, mais à un moment, on doit prendre en charge sa vie, savoir de quoi on est capable et de quoi on s'interdit, quoi qu'il en soit, d'être capable. Et je trouve qu'il y a une espèce comme ça aujourd'hui. On est beaucoup... vous voyez, tous les livres de développement personnel, le souci de soi, etc. Et je trouve qu'on se pardonne très facilement soi-même nos fautes, nos erreurs, en plaçant toujours notre liberté un peu comme une... oui, mais bon, c'était ma liberté de faire ça, de partir, de tromper, de trahir, de voilà. Et je crois que là-dessus, on devient des mauvais vivants, vraiment.
C'est peut-être ce qu'on se dit à voix haute, mais si les livres de développement personnel fonctionnent autant, c'est peut-être qu'au fond, on sait qu'on est quand même assez monstrueux,
bah oui,
ou décevant, ou médiocre.
Ça, je crois qu'après, on se détruit aussi soi-même, on fait pas que détruire l'autre, mais notre survie morale... Oh là là, soudain, j'ai l'impression d'être... de faire un traité de morale. Non, notre survie morale, elle est capitale, quand même, surtout dans un monde aussi violent, en fait, que notre monde. Et en plus, nous, on est quand même dans des pays où, je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire on a quand même la plupart du temps le choix de faire autrement. Dans certains pays, on n'a pas le choix et il faut penser qu'à soi, il faut se sauver de soi. Mais en tout cas, moi, j'appartiens à un pays, à une époque, à un milieu où je suis toujours terrifié, en fait, que comment les gens s'accordent le droit de tant de violence.
Un des slogans de cette émission, ça pourrait être la phrase « œuvrer plutôt qu'endurer ». Et vous, Christophe Honoré, même si vous ne vous considérez pas comme un artiste engagé, vous êtes en tout cas impliqué, notamment dans la défense de l'égalité des chances et celle de l'élitisme pour tous. Et ça a commencé très tôt, puisque étudiant, vous dirigez des colonies avec des structures d'accueil pour les enfants défavorisés. Ça a été clé dans votre formation politique.
Oui, ça a été c'était très très important, en fait, quand j'ai eu comme tout le monde, comme les gens qui en tout cas travaillent dans des centres de vacances, j'ai fait mon BAFA et puis après je suis devenu directeur de centre de vacances à 21 ans parce que vous pouvez le faire voilà. Et puis je travaillais beaucoup avec une association d'éducation populaire qui s'appelait les CMEA et les CMEA notamment à Avignon, à Bourges, enfin voilà, travaillaient beaucoup sur la médiation culturelle en fait et ça m'a oui, je crois vraiment que ça a construit ça m'a structuré énormément et aussi dans mon travail d'artiste, que la question de la transmission, de cette idée qu'à un moment la rencontre avec l'art est essentielle, c'est compliqué parce que l'égalité des chances, en fait, on sait bien qu'elle n'existe pas, et donc il faut tout le temps la construire. Et donc forcément, en tant que cinéaste ou en tant que metteur en scène, j'essaye d'être attentif à ça, à pouvoir à un moment faire en sorte qu'il y ait une rencontre. Et la rencontre, elle peut être stérile, c'est-à-dire que on peut amener des élèves, des enfants au théâtre ou au cinéma et qu'il ne se passe rien. Il n'empêche qu'il faut d'une manière acharnée le faire parce que à un moment il peut se passer quelque chose. Et c'est vrai que je crois vraiment que l'école est le lieu privilégié de la rencontre avec l'art. Ce qui est très étrange hein, parce qu'on n'en a pas ces souvenirs-là. Quand on pense à nos années collège ou lycée, on se dit pas que c'est la rencontre avec l'art. Il n'empêche que on n'a jamais autant lu Molière, Racine, on n'a jamais entendu parler de grands peintres, etc. Plus que entre 12 et 18 ans. Et tout le monde. C'est pour ça, par exemple, que j'avais fait ce film La Belle Personne derrière, autour de la princesse de Clèves, à la suite de Sarkozy, qui s'énervait que dans les concours, on puisse encore étudier Madame Lafayette et qui disait, imaginez la postière si vous lui parliez de la princesse de Clèves. C'est tellement con, crétin, et ça va tellement à l'encontre, en fait, de ce qui devrait être un des soucis majeurs du politique, justement, que ce film était une réponse, en fait, à ça. Donc oui, je l'ai beaucoup en tête, ce souci-là.
Nous tentons de recomposer l'image sacrifiée à force de superposition, de recoupement. Mais parfois, ce n'est plus rien de tangible qui apparaît, ce n'est plus que la forme d'un nez, comme un vilain postiche, ou bien une seule inflexion de voix, comme les notes d'une boîte à musique à demi cassée, ou bien la seule couleur des cheveux, le souvenir d'un habit, une très vague odeur, toujours diaphane ou pourrissante. Ce n'est plus qu'une image très floue et incomplète, douloureuse dans l'effort qu'elle réclame, dans ses supplications de réexistence.
1981, Hervé Guibert lit un extrait de son livre « L'image fantôme » sur France Culture. L'auteur fait partie de votre panthéon d'écrivain, Christophe Honoré. En quoi a-t-il changé votre rapport au monde ?
Bon, il a tout changé, Hervé Guibert, parce que c'est un écrivain, mais c'était aussi pour moi... Ben voilà, en 86, je sais plus, un ami qui m'a pas sauvé la vie, ça doit être 88, quand l'émission, en tout cas, apostrophe, c'était le premier malade du sida que je voyais, et en tant que homosexuel, quand vous avez 16-17 ans, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose là qui dépassait la littérature. Et je le lisais déjà. Ce qui est très très étrange, c'est que le premier livre d'Hervé Guibert, en fait, que j'ai eu entre les mains, c'est ma petite fiancée de l'époque qui me l'avait offert. Comme si soudain, elle avait compris quelque chose que je lui avais jamais dit. D'entendre cette voix... Enfin, pour moi, Guibert est vraiment l'écrivain qui me manque le plus, en fait. Je crois que c'est le manque qui fait la spécificité de mon attachement à lui. C'est-à-dire que je pense que les grands livres de Guibert, et Dieu sait si j'adore déjà ces livres, en fait, étaient à venir. Et le fait, en fait, qu'il soit mort avant ses 40 ans, en fait, m'a fait que... Il me semble vraiment, en fait, qu'on est en manque, en fait, des livres d'Hervé Guibert.
Les tendances les plus opposées n'ont jamais réussi à faire de moi un être tourmenté, mais perplexe. Car le tourment accompagne un état dont on souhaite de sortir, et je ne souhaitais point d'échapper à ce qui mettait en vigueur toutes les virtualités de mon être. Cet état de dialogue, qui pour tant d'autres, est à peu près intolérable, devenait pour moi nécessaire. C'est aussi bien parce que, pour ces autres, il ne peut que nuire à l'action, tandis que, pour moi, loin d'aboutir à la stérilité, il m'invitait au contraire à l'œuvre d'art et précédait immédiatement la création.
André Gide lit un extrait de son journal de 1923 dans une archive enregistrée en 1948. Pour vous, Christophe Honoré, ça a été difficile de choisir 3 ou 4 références à recommander aux auditeurs, puisque pour vous, c'est la somme qui change, l'accumulation, la permanence des éventualités de tomber amoureux. C'est ce que vous dites, c'est un très joli rapport aux œuvres. Pourquoi André Gide ?
André Gide, je crois que c'est vraiment les faux monnayeurs, en fait. C'est la preuve, c'est... En fait, pourtant, ça, c'est complètement idiot de dire ça, mais je pense que André Gide m'a amené au nouveau roman, étrangement.
Sur lequel vous avez fait une pièce.
Voilà. Et parce que quand j'ai découvert Les Faux Monnayeurs, je crois que j'étais en seconde, et la manière dont il déconstruit complètement le roman m'avait vraiment passionné. Et c'est ça qui, alors que très honnêtement, je pense que les écrivains du nouveau roman détestent André Gide, mais j'aime beaucoup ça, en fait. C'est aussi ce que j'ai pu retrouver après chez Aragon et son travail sur le roman. Et c'est aussi des grands formalistes, en fait. Et Gide, après, maintenant, j'ai un rapport ambivalent, parce qu'il y a des choses chez Gide qui m'ennuient plus que d'autres. Mais en tout cas, Les Faux Monnayeurs, c'est vrai que ça a été un livre très important quand j'étais lycéen.
Le diable, comment le voyez-vous ?
Ah ben, je le vois comme... oui, enfin, pour moi, Lucifer, c'est la logique. Et Dieu, c'est l'amour. Mais je suis un peu avec le diable et beaucoup avec Dieu, n'est-ce pas ? Et le diable, quand même, j'ai un certain respect, pas pour tous les diables, mais pour Lucifer, parce qu'il est tombé parce qu'il avait plus d'exigence pour Dieu que Dieu lui-même.
On sent la malice dans la voix. 1965, Marcel Jouhandeau au micro de Pierre Lost sur France Culture. Chez lui, sont présents le catholicisme, la honte de l'homosexualité, sans doute renforcée par le catholicisme. Et je vous laisse nous en parler, Christophe Honoré.
La honte, mais la jouissance de cette honte.
Bien sûr.
C'est ça qui est très troublant, en fait, chez Jouhandeau, c'est que plus il a honte, plus il jouit. Et ses livres secrets, en fait, qui sont parus plutôt après sa mort, qui sont des récits, en fait, de ses amours, etc. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé quand j'ai commencé à écrire, et notamment quand j'ai commencé à écrire des romans. Et ce qui est très étrange, parce que il a une écriture qui est... et un style vraiment, je pense... je vois pas très très bien quelle influence il a pu avoir en fait sur mon propre style, mais il m'a énormément influencé et aidé. C'est, je sais pas, c'est des espèces de compagnons quoi. Et lui aussi, hein, il est la carrière de Jouhandeau pendant la guerre, son antisémitisme, etc. C'est quelqu'un de assez infréquentable.
Oui.
Il n'empêche que c'est vraiment un écrivain majeur du XXe siècle.
Christophe Honoré, vous avez adapté Ovid, Victor Hugo au théâtre, bon, Madame de Lafayette, les écrivains du nouveau roman au théâtre aussi, Bataille avec le film Ma mère, la comtesse de Ségur. Vous êtes un grand lecteur ?
Plutôt oui, en tout cas c'est une activité quotidienne et puis je crois qu'au fond de moi j'ai quand même toujours un peu l'idée que la littérature domine les autres arts. Qui est une vision tellement académique et que j'en ai honte, c'est vrai que la lecture est vraiment un moment privilégié en fait de la journée et de mes soirées en fait. Je passer une soirée à lire en fait est plutôt pour moi une bonne soirée a priori.
Dans vos films, il y a une grande présence du corps et de la musique. Et vous avez choisi pour cette émission trois chorégraphes et danseurs, Alain Platel, Dominique Bagouet et Pina Bauche. Quel est votre rapport à eux et votre rapport à votre corps? Est-ce que vous dansez?
Non, malheureusement, je danse pas. Quoique, quand je suis arrivé à Paris, en fait, j'avais une amie qui était un peu chorégraphe de danse contemporaine. Et donc, j'ai participé, elle avait la compagnie Joséphine, et j'ai participé à un spectacle. Où non seulement j'étais nu, mais le corps était peint. Ce qui est quand même un truc qui, moi-même, j'ai l'impression que ce n'est pas possible, en fait, que c'est quelque chose qu'on a inséré dans ma mémoire, mais que je n'ai jamais vécu.
Vous étiez peint de quelle couleur?
Ah, on était peint comme des espèces, avec plein de couleurs différentes. C'était assez terrible. Et, malheureusement, certaines personnes ont assisté à ça et donc.
Il y a des témoins.
Voilà. Peuvent me le redire de temps en temps. Non, en fait, moi, vraiment. C'est quelque chose que j'ai découvert tard, la danse contemporaine. J'étais étudiant et puis après quand je suis arrivé à Paris, beaucoup grâce au CMEA d'ailleurs. Et pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire que je pense que si je l'avais découvert plus tôt, j'aurais certainement tout fait pour essayer de devenir chorégraphe plutôt que de devenir cinéaste. Et encore aujourd'hui, d'aller voir un spectacle de Platel ou de regarder même une captation d'un spectacle de Pina Bausch. Par exemple, là, je suis en train de préparer en fait un opéra, Les Troyens, pour l'opéra de Munich. Et à ma sonégraphe, le première chose que je lui ai montré, c'est Palermo de Pina Bausch pour essayer de lui expliquer en fait ce que je cherchais. C'est des sources de référence essentielles pour moi.
Si on revient un peu à la littérature, dans vos références, il y a Bataille, Sarraute, Solers et Bret Easton Ellis. J'aimerais bien qu'on parle de Bret Easton Ellis, Christophe Honoré, qui a fait le plus mauvais film de tous les temps, The Canyon, et je dis ça parce que je l'idolâtre comme écrivain.
Et pourtant avec un bon réalisateur, Schrader, oui. Mais oui, non, c'est vrai que c'était... Bon, après, il y a des gens qui adorent ce film, mais bon, pour des raisons assez alambiquées, je pense.
Ou snob.
Parce que quand vous découvrez Bret Easton Ellis... moi, je me souviens en plus, parce que mes parents étaient abonnés à France Loisirs, c'était un peu comme ça que les livres arrivaient à la maison, et moins que zéro.
Voilà. Ah oui, par France Loisirs ?
Par France Loisirs, en fait. Et donc, avec les grosses couvertures cartonnées, et je me souviens de l'été, je crois que c'était l'été de mes 15 ans, en fait, à lire moins que zéro. Et puis, Bret Easton Ellis, c'était très très jeune quand il l'avait écrit, donc... Bah forcément, vous rêvez d'être vous aussi autour d'une piscine californienne avec des gens plus sensuels les uns que les autres et
parfois meurtriers.
Voilà, et puis cette écriture d'une très grande nudité, en fait, vous dites elle est à ma portée.
Clinique.
Donc voilà, ça vous fait rêver d'être écrivain, en fait. Vous dites ça, c'est possible de le faire. Et puis petit à petit, en fait, moi, j'ai jamais lâché Bret Easton Ellis et jusqu'à son livre qui pour moi est son livre majeur, Lunar Park, qui est
chef-d'œuvre.
Voilà, un des livres pour moi les plus émouvants de la littérature américaine et un immense livre vraiment de Bret Easton Ellis. Alors, le problème de Bret Easton Ellis, c'est qu'aujourd'hui, il est plus connu pour ses tweets et tout ça. Et puis, que comme il est très provocateur, en fait, il n'est pas à l'abri de dire des énormes conneries et de ricaner derrière. Mais il ne faut pas oublier, enfin, en tout cas, moi, je n'oublie pas que c'est vraiment un écrivain majeur et qui a influencé tellement la création, en fait, depuis les années 80, que ce soit au cinéma, en littérature, évidemment, mais même en photographie, dans l'art contemporain. C'est vraiment un pilier.
Lunar Park et Glamorama, si je peux ajouter une recommandation.
Tout à fait.
Dalt J dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Christophe Honoré. Pour être armé dans l'existence, vous recommandez Salinger, notamment Franny et Zoé, et le recueil de deux textes « Dressez haut la poutre, maîtresse charpentier » et « Seymour, une introduction que je ne connaissais pas et que j'ai lue grâce à vous ». C'est époustouflant de sensibilité, de virtuosité et de drôlerie.
Bah c'est, je sais pas comment dire ça. C'est très étrange en fait Salinger parce que à la fois vous avez l'impression qu'il faut garder ça pour vous comme une espèce de petit secret quoi et puis en même temps évidemment Salinger fait partie des auteurs très partagés et puis souvent très liés aux jeunes lecteurs. On pense toujours comme ça à Salinger comme
à la trappe-cœur.
Ouais, la trappe-cœur, presque un auteur adolescent en fait. Et moi j'ai découvert Franny et Zoé, je me souviens très bien, c'est Geneviève Brisac, alors que j'avais commencé à publier certains livres pour enfants à l'école des loisirs, qui m'avait dit « Ah ouais, ça me fait penser à Salinger ». Et je lui ai fait « Ah ouais ». Je dis « j'ai jamais lu Salinger ». Elle me dit « Mais il faut absolument que tu découvres Franny et Zoé ». Et donc j'ai lu Franny et Zoé. Et après, en fait, Franny et Zoé, donc, c'est une nouvelle. Et il y a plusieurs nouvelles qui concernent la même famille, qui est la fameuse famille Glass, qui est une famille comme ça de surdoués, on peut dire. Mais pas tant de surdoués parce que ils seraient capables de faire des opérations à une vitesse éclair, ce qu'ils sont capables de faire, mais surtout des surdoués de l'ultra sensibilité et donc tous les livres et toutes les nouvelles qui concernent en fait la famille Glass tournent notamment autour d'un événement tragique en fait qui est le suicide d'un des frères Glass et comment en fait cette famille fait avec Je sais pas, moi déjà Franny et Zoé, d'une manière complètement clandestine, en fait, j'ai fait un film justement, j'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle Dans Paris, qui finalement est un décalque de Franny et Zoé sur un film en deux parties, exactement comme Franny et Zoé, avec d'abord une histoire amoureuse, deux gens qui se séparent, et puis après une famille qui essaye d'aider la personne qui est en dépression et l'impuissance en fait qu'ils ont à l'aider, avec le souvenir justement d'un autre frère, enfin là, qui dans le film a une sœur en fait qui se serait suicidée. Et c'est des livres vraiment qui me... C'est des récits assez courts en général, mais dans l'écriture, dans la manière en fait comme ça dont il prend en compte le narrateur, puisque c'est toujours un jeu en fait, il y a quelque chose en fait chez Salinger qui est... qui protège vraiment, et c'est pour ça, dans l'idée, j'ai essayé de m'attacher en fait à ce mot armée, et je trouve vraiment, et pourtant Dieu sait si Salinger travaille sur les parties vulnérables de l'être, mais c'est pas que de la consolation en fait, c'est-à-dire que il y a aussi un petit côté teigne, une petite manière comme ça de résister en fait, d'avoir une ironie face à la vie, et je trouve vraiment que c'est une très très bonne arme, comme ces romans sont des bonnes armes contre les difficultés qui nous assaillent.
Il prend vraiment le lecteur par la main et avec beaucoup d'humour parle assez souvent de choses absolument tragiques, mais avec une pudeur infinie. C'est-à-dire que jamais il ne s'épanche dans le pathos.
Oui, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens qui veulent à tout prix éviter le solennel. Et cette idée que, voilà, quel que soit en fait... la force et l'intelligence, parce que c'est des livres quand même d'une très très grande intelligence, il y a jamais en fait l'idée de la messe, l'idée du solennel, l'idée d'un espèce de savoir comme ça qui imposerait une domination. Et ça, c'est vrai que moi je suis très sensible en fait aux artistes qui font cet effort là de prétendre toujours à malgré tout à la légèreté et à l'humour.
Vous avez d'autres noms en tête, Christophe Honoré ?
C'est pour ça que je préférerais toujours Truffaut à Piala, par exemple. Dans le cinéma, voilà, ou dans un sens, Wong Kar-wai à... Allez, non, je ne vais pas dire d'autres gens. Mais voilà, en tout cas, je trouve que cette discipline-là de légèreté, en fait, elle est... Je trouve qu'il faut l'accueillir avec beaucoup de gratitude et souvent malgré tout cette discipline de légèreté elle peut entraîner à une sorte de dénigrement. Ah, c'est pas mal mais bon, c'est pas grand-chose. Alors que moi je suis vraiment convaincu de l'inverse en fait, que c'est tellement difficile d'être délicat et léger en fait quand on se met à écrire un roman ou quand on se met à faire un film.
La cantate Christ lag in Todesbanden, combat mystique du Christ contre la mort, mis en musique par Bach à 22 ans en 1707, pour introduire votre accomplissement rêvé, Christophe Honoré, la résurrection des morts. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais mettre les pieds dans le plat. Vous avez perdu votre père à 15 ans dans un accident de voiture et vous dites à ce sujet « Cette disparition m'a à la fois énormément construit, énormément détruit. Maintenant que je vieillis, je suis beaucoup moins persuadée qu'on se répare. La résilience, un des mots qui m'énerve le plus, je n'y crois pas. » Je voulais citer ça parce que la plupart d'entre nous a vécu des deuils et je voulais savoir si vous pensiez que la douleur, ça me nuisait quand même avec le temps, un tout petit peu. Parce que je suis comme vous, je ne crois pas au mot « résilience ».
Je sais pas, c'est comme les premières fois où vous buvez de l'alcool, en fait, forcément, vous réagissez très très vite, et puis après, il vous faut, vous accoutumez un tout petit peu à quelque chose, mais il n'empêche qu'elle a toujours de l'effet sur vous. Bon, c'est nul comme métaphore, j'aurais pu en trouver une.
Oui, mais elle parlera à tout le monde.
Voilà. Je crois que ce qui est détruit, vraiment, à jamais, et.
On s'accoutume simplement, c'est une accoutumance.
On fait avec. Mais faire avec, ça veut pas dire que c'est de plus en plus facile, parce que dans l'idée de la résilience, il y a un petit peu de ça, c'est aussi apprendre à faire avec, justement. Non, moi je crois qu'on fait avec Non, c'est pas ça, c'est qu'on fait avec la tristesse, en fait. C'est juste que notre...
Allez-y, tout ça. Est possible, n'ayez pas honte.
Non, c'est que notre charge de tristesse est de plus en plus lourde au fur et à mesure, en fait, des années.
Donc c'est même le contraire.
Et que cette tristesse-là, elle est... Non, je crois pas du tout à la résilience. J'aimerais y croire, hein. J'aimerais pouvoir dire que finalement... ce qui nous tue pas nous rend meilleurs, ou je sais pas quoi, des conneries comme ça. Mais c'est pas le cas. Et c'est pour ça que moi j'ai de la chance. Vraiment, j'ai une chance. Je me sens très très privilégié. C'est-à-dire que la résurrection des morts, c'est mon métier.
Ouais, par l'image, par le cinéma, par
l'image, par le cinéma, par le théâtre. Au théâtre, je fais les idoles et soudain, je peux me donner moi l'illusion que je peux danser pendant deux heures avec Jacques Demy, avec Lagarce, avec Coltès, et de les faire exister. Et là, la pièce que je fais, Le Ciel de Nantes, c'est autour des membres de la famille de ma mère, en fait. C'est une famille très nombreuse qui ont été touchées par la tragédie, tous très très jeunes. Mais des tragédies très quotidiennes liées à leur milieu social, etc. Et je les fais revivre là pendant deux heures. Et mon premier film, le premier plan de mon premier film, c'était un fantôme. C'était un film qui s'appelait 17 fois Silcassa avec Béatrice Dalle qui perdait son mari dans un accident de voiture et son mari revenait en fantôme lui parler, en fait. Et c'est la première chose que j'ai tournée au cinéma. Donc Moi, je sais que je travaille avec les morts quand j'écris, quand je me mets en scène et j'aime bien ça. Alors c'est peut-être mon côté breton. C'est-à-dire moi, ça m'effraie pas en fait. J'ai pas de.
C'est dans le folklore breton, la mort est très présente. Moi, j'ai des livres de légendes sur la mort.
Voilà, c'est que l'Ankou, il est qui est le valet de la mort, qui vient comme ça nous annoncer un peu la mort prochaine des gens, mais c'est aussi les cimetières qui sont autour des églises et les marchés soudain dans les petites villes où les échoppes sont presque dans les cimetières, presque entre les tombes et ce commerce avec les morts, je trouve, est quand même une des activités pour moi les plus excitantes à avoir en tant que vivant.
Christophe Honoré, je vais pas vous demander vous aimeriez faire revenir, mais ne pensez-vous pas qu'on idéalise les morts ?
Ah si, non, mais c'est parfois des salopards, les morts.
Oui, et si on y revenait, parfois, on se dirait, oh non, mais qu'ai-je fait ?
Mais c'est pour ça qu'il faut il faut envisager, en fait, toujours les morts. Moi, je pense que les morts sont nos héritiers, plutôt que nous, en tant que vivants, on est les héritiers des morts. Et j'aime bien cette idée-là. Moi, je pense vraiment que mon père est devenu mon héritier, en fait, et qu'il y a quelque chose en fait qui se joue là, qui est important. Non, évidemment que il faut faire attention à idéaliser les morts. C'est pour ça que je peux être un peu des fois même teigneux, en fait, avec les morts, ou même quand c'est des idoles, en fait, en tout cas m'amuser, me moquer, enfin pas moquer, je crois pas, mais en tout cas m'amuser, rire avec eux. Ce commerce, cette danse avec les morts, j'avais vu à Madagascar, en fait, dans leur rite funèbre, il y avait comme ça l'idée qu'au bout de 3 ans, en fait, et je l'ai vu hein, dans un documentaire, on rouvre les tombeaux, on sort carrément les linceuls, et on passe comme ça les linceuls, en fait, au-dessus des têtes, on les fait tourner toute la journée, comme ça, on danse avec eux, et on les remet dans un nouveau linceul au tombeau. Ben ça, pour moi, c'est une des plus fortes images de ce que j'essaye de faire en littérature ou au cinéma.
I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair.
1971, Famous. Oula, cet accent. Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen. Pourquoi ce choix, Christophe Honoré? Enfin, pas pourquoi ce choix, en fait. Je vous ai demandé quelque chose de beau à recommander aux auditeurs et vous avez tout simplement répondu ça.
Bah, c'est la beauté absolue, ça. C'est. Le nombre de fois où je me suis mis devant mon ordinateur en me disant je vais faire un film de cette chanson, et évidemment faut pas le faire, mais ce que ça raconte, la voix de Cohen, cette mélodie, tout est tout est un appel à la fiction, et en même temps, on a l'impression qu'il nous parle exactement d'un endroit très 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 précis de notre vie, qui correspond, on va dire, au passage à l'âge adulte, en fait. Quand soudain, on comprend que nos histoires d'amour vont être des histoires, justement, et que ça va pas être uniquement la question de rouler des pelles ou de se sentir un peu bien dans les bras de quelqu'un, mais que ça va être des histoires, donc avec des intrigues et que ça va se développer et se déplier toujours d'une manière inattendue.
Bon, bah alors arrêtons quelques secondes de fréquenter notre prochain Christophe Honoré pour l'engagement final dans cette émission que je demande aux invités. Le vôtre, c'est d'aller à la mer. Est-ce que la destination est déjà prévue? Est-ce que vous savez où ce sera?
Non, mais il faut absolument, parce que justement, je descends à Lyon, en fait, pour faire la pièce de théâtre Le Ciel de Nantes, et puis après, j'enchaîne sur le tournage d'un film, et je me suis dit, il faut absolument que je retourne en Bretagne voir la mer. C'est vraiment quelque chose qui me... Je sais que quand je le fais pas, en fait, je vis moins bien.
Merci beaucoup d'être venu, Christophe Honoré.
Ben, merci à vous.
Votre film Guermantes, avec plusieurs acteurs de la Comédie Française, est toujours en salle. Et votre spectacle Le Ciel de Nantes se jouera du 6 au 13 novembre au Théâtre des Célestins à Lyon, puis à Nantes au lieu unique du 6 au 13 janvier et en mars au Théâtre de l'Odéon à Paris. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre humeur a la fougue d'un citron galvanisé par lui-même. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.